Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Mike Gardi Diana, il est journaliste et éditeur des médias lesfrancs-tireurs.net et Baptiste Afrique. Bonjour Mike Gardi Diana.
Bonjour Monsieur Guy et merci pour l'invitation.
Maître Nelly Mbangu Lumbulumbu, membre de la société civile du Nord Kivu, elle est présidente de l'association dynamique des femmes juristes DFJ en sigle et coordonnatrice du réseau des organisations féminines Saouti Yamama Mukongomani. Bonjour Maître Nelly Mbangu Lumbulumbu.
Bonjour Monsieur Guy, bonjour à tous les candidats, merci.
Merci. En ligne depuis la ville de Montréal au Canada, Patrick Meko, il est écrivain, il est auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique, il est aussi spécialiste des Grands Lacs. Bonjour Patrick Meko.
Bonjour et merci de m'avoir invité.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de cette journée d'actualité.
La santé de nos enfants est notre priorité absolue. C'est pourquoi nous vous encourageons vivement à participer à la campagne de vaccination contre la polio pour protéger nos enfants contre les maladies évitables et pour renforcer leur système immunitaire.
J'ai fait vacciner mon enfant pour lui assurer un avenir meilleur.
Faisons vacciner nos enfants du 10 au 12 avril 2025 dans les provinces ci-après. Kinshasa, au Lomami, au Katanga et Tanganyika de 0 à 59 mois. Et pour Tchopo et Maniema de 0 à 15 ans.
Message du ministère de la Santé et ses partenaires.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Mike Gardi Diana, il est journaliste et éditeur des médias lefranc-tireur.net et Baptiste Afrique. Maître Nelly Mbangulumbulumbu, membre de la société civile du Nord Kivu, elle est présidente de l'association dynamique des femmes juristes DFJ en sigle et coordonnatrice du réseau des organisations féminines Saouti Yamama Mukongomani. Et en ligne depuis la ville de Montréal au Canada, Patrick Meko, il est écrivain, il est auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique. Il est aussi spécialiste des Grands Lacs. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir le retour de Joseph Kabila en RDC, que comprendre au regard de la situation politique actuelle, efficacité des différentes médiations dans la résolution du conflit dans l'est de la RDC, et enfin, situation des ménages inondés par les pluies diluviennes du samedi et dimanche dernier. Quelles actions faut-il prendre pour assister ces ménages et que faut-il faire pour prévenir cette catastrophe? Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet du dossier du détournement présumé de 10 millions de dollars accordés par la société pétrolière Perenco. En effet, dans son rapport parvenu jeudi 10 avril à Radio Okapi, la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO en sigle, expose un détournement de 10 millions de dollars destiné au projet de rénovation de la cité côtière des Mwanda au Congo central. Selon ce rapport, ces fonds issus d'un avenant numéro 9 signé entre l'État congolais et la société pétrolière Perenco devraient financer des projets locaux pour améliorer les infrastructures et les conditions de vie à Mwanda au Congo central. Or, près de 90% de l'enveloppe aurait été dilapidée, note cette organisation citoyenne. La LICOCO affirme que plus de 8 millions de dollars américains ont été injectés dans des projets non réalisés ou inachevés, tandis que 700 000 dollars restent introuvables dans les comptes. Mike Gardi Diana, les scandales financiers sont courants dans ces pays. On a même l'impression, n'est-ce pas, que les gens s'y accommodent. Comment vous réagissez à ces nouveaux scandales financiers, Mike Gardi Diana?
Je crois que la réaction serait une réaction de désolation, dans la mesure où comme vous venez de le dire, on nous a presque habitués à des scandales financiers de ce genre-là. Mais sur cette question particulièrement, ce que je peux dire maintenant, c'est qu'il y a divergence de points de vue jusqu'à ce qu'on établisse une enquête un peu plus indépendante, parce que la LICOCO parle en tout cas de certains cas de dilapidation de l'argent et autres. mais il a été vite contredit par l'un des membres de la commission de gestion de ce fonds qui estime que le projet aurait été un peu plus large que les simples quelques projets évoqués par la LICOCO. Mais ce qui est sûr, c'est que ce fonds-là, jusqu'à preuve du contraire, les résultats attendus ne sont pas très visibles, ça c'est une vérité des faits. Mais de l'autre côté, on dit on a essayé de diversifier les orientations, notamment le soutien aux différents pêcheurs locaux. Et on aurait acheté des véhicules pour la mobilité de chefs de secteur et quelques agents de la police. En fait, c'est vraiment une véritable cacophonie. C'est là où j'estime qu'il faut qu'il y ait une enquête un peu plus sérieuse et indépendante pour dégager les responsabilités. Autre élément de doute qui s'installe sur cette question, le responsable de la commission de gestion estime que le fonds ne venait pas des parrains, mais c'était plutôt une subvention gouvernementale. Alors que nous tous, nous savons que ce fonds-là était justement provenait de la caisse de parrains. Donc, c'est l'ensemble des éléments de doute qui nous empêchent aujourd'hui de pouvoir définir de manière rationnelle quelques éléments de fait. Mais la vérité, c'est qu'il y a eu bel et bien 10 millions de dollars qui ont été décaissés pour le projet, la modernisation de la cité de Mwanda. Jusqu'à là, on ne sait pas voir clair. Et tout ce que moi je vais faire, c'est que je vais demander plutôt à l'inspection générale de finances de pouvoir avoir des frais prêts. Et puisqu'il s'agit des ressources du gouvernement, si jamais il y a des faits à établir, que la Cour de compte également s'y penche pour faire lumière sur cette question-là.
Merci, Madame Nelly Mbangulumbulumbu. Comment comprenez le fait que, en dépit des mécanismes mis en place avec comme objectif de lutter contre ce genre de pratiques, l'on continue à enregistrer, n'est-ce pas, des cas de détournement des deniers publics, des cas de concussion? Comment vous comprenez cela?
Merci beaucoup, Guy Maté. C'est vraiment avec désolation que j'ai aussi appris en fait la nouvelle sur le détournement de ces fonds. Je dois d'abord reconnaître qu'il y a l'IGF et tous les autres acteurs qui sont impliqués dans ce processus de lutte contre la corruption, qui sont en fait des institutions. Pour nous, que nous pensons qu'ils doivent vraiment faire le travail comme il se doit, et on s'est dit avec déjà la présence de ces institutions, on devrait vraiment plus apprendre, n'est-ce pas, qu'il y a des détournements qui se font à ciel ouvert, et surtout apprendre également que même si ces détournements arrivaient, il n'y a rien qui, en fait, comme décision efficace qui soit prise, n'est-ce pas, pour arriver, n'est-ce pas, à contraindre, n'est-ce pas, ou alors à dissuader toutes les populations, ou alors, si pas la population, mais au moins les auteurs ou les acteurs de ces malversations. Alors, ce que je voudrais dire ici est que nous pensons que les institutions doivent faire leur travail, comme il se doit. Et une enquête, comme l'a dit mon frère, une enquête doit s'ouvrir pour, en fait, arriver à dénicher tout le contour sur ces détournements. Et nous avons également pensé qu'il faut renforcer les mesures de protection des deniers publics. Parce que ça devient, en fait, une routine où les gens peuvent détourner des millions et sans que cela ne soit considéré comme, en fait, un problème au niveau du pays. Donc, il y a déjà une population qui vit, comme on le sait, dans une misère totale, alors qu'il y a une autre partie de la population, ou même une frange de la population, qui peut se permettre de prendre les deniers publics, de s'en servir comme ils pensent. Nous pensons que le fait, par exemple, aujourd'hui, qu'on parvient à dénicher d'abord ces cas de détournement est une bonne chose, mais nous devons arriver à prendre des mesures qui soient plus coriaces, des mesures coriaces pour arriver, n'est-ce pas, à freiner cette hémorragie. En fait, ça devient de trop, on apprend tous les jours, on cherche à comprendre, mais pourquoi les gens, au-delà même de cette campagne, n'est-ce pas, campagne de lutte contre la corruption, continuent, n'est-ce pas, à s'adonner à ces actes. Donc cela signifie en fait qu'il n'y a pas de mesures jusque-là qui sont prises et qui peuvent contraindre tous ces gens qui font... je vais dire, si je veux parler des autorités, parce que jusque-là, on sait qu'il n'y a pas encore des enquêtes qui sont ouvertes pour arriver à dénicher tout le contour. Mais je me dis que ce n'est pas quand même croyable ce qui se passe dans notre pays. Déjà, à un dollar, si vous arrivez juste à prendre un dollar, qui n'est pas le vôtre, qui est un dollar qui a été donné par les taxes, je ne sais pas, par, je ne sais pas, des donations, c'est déjà un détournement, même un seul dollar. Donc, on doit arriver à mettre fin à cette histoire qui ternit l'image du pays.
Merci beaucoup.
Merci, Maître Kennelly Mbangulumbulumbu. Patrick Mbeko, ce qui est paradoxal, est-ce que ces pratiques sont souvent les faits des gens haut placés dans les différentes sphères de l'État et qui, en plus de cela, bénéficient, n'est-ce pas, de beaucoup d'avantages de la part de l'État congolais?
Oui, je pense que l'essentiel a été dit. En RDC, la corruption est généralisée, elle est endémique. Le vrai problème n'est pas de mener des enquêtes ou d'avoir des instructions parce qu'elles existent. C'est plutôt de sanctionner quand les gens sont reconnus coupables de certaines manifestations de corruption. Alors, si l'impunité est assurée aux uns aux autres, il est tout à fait normal que ce type de phénomène discordant se perpétue dans le temps, dans la durée. Donc le problème n'est pas d'avoir des lois ou des textes réglementaires, mais plutôt d'appliquer de manière rigoureuse afin de dissuader les uns les autres de ce n'est pas ce type de comportement. Donc, tant que le Congo restera un sort de Far West, un pays où le droit n'est pas respecté, alors que ce pays produit des dizaines de milliers de juristes tels que je vois. Je ne veux pas être méchant à l'égard du système éducatif congolais, mais on produit assez de juristes, on a fait des textes de loi pour pouvoir les appliquer et dissuader ce type de comportement. Tant qu'on ne le fait pas, il ne faut pas être torpé d'assister à ce type de choses. La corruption dans un pays aussi pauvre, avec une population qui vit avec moins de $100 par jour, est criminelle. Et on doit sanctionner les auteurs de ce type de comportement. La vraie question de mon point de vue, c'est celui de l'impunité.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Mbongo de Simaro Lutumba Massia avec la voix de John Poy. Et on se retrouve juste après.
Kangelanga bwato ekotiola e Likone koinda yo kamo kilieza linde koningana Disolo mosusu te kaka sembongo e Odele anganga mama e Mikolo mikomi dena suka e Bolingo zaliko boyanga e Omokolo ya yambo Nabosana kikotuna yo selija e Dati yoko boyanga e Likoleko inda tala na zingi maboko na moto Kela nitunelanga nani asala mbongo Eloko yo mobongisi, eloko yo mobebisi Nale lanti na nini Onda koyanganga, bape kisanga nena kota ho Kela ni nokina suali boma ho Mbongo mama Pasi ele kipanganga Batonda ndelo kutao Kanga nazi malere loko langai Likambo ya somo nganga Sengi ngali susu mbongo Eloko yonga nazari koluka Desespoir Selija depisanga mbongo na dondwa.
C'était Mbongo, cette composition du poète Lukumba Simaro Massia sortie en 1975 dans l'orchestre Ok Jazz. La première version avait été interprétée par Nombe Opetum et la version que nous venons d'écouter avait été interprétée par John Poy. On revient à l'actualité de cette semaine. L'annonce du président honoraire Joseph Kabila de revenir en RDC par la partie orientale est depuis quelques jours au centre d'une controverse entre l'UDPS et le PPRD. Dans une déclaration parvenue mercredi 9 avril à Radio Capi, le secrétaire général du parti au pouvoir, Augustin Kabouya, estime que la décision de l'ex-chef de l'État constitue un aveu de sa paternité à la rébellion de l'AFC M23. Il affirme ne pas être surpris par cette annonce de Joseph Kabila, qui selon lui serait le pion de Paul Kagame. Du côté du PPRD, ces accusations sont qualifiées de faux fuyants. Le secrétaire général permanent adjoint de cette formation politique, Ferdinand Kambere, a dénoncé les tentatives visant à porter atteinte à l'autorité morale de son parti ainsi qu'à d'autres cadres. Ferdinand Kambere a décrit les propos d'Augustin Kabouya comme de simples mensonges destinés à tromper la vigilance de l'opinion publique. Patrick Mbeko, vous êtes écrivain, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique, vous êtes aussi spécialiste des Grands Lacs, vous avez souhaité nous parler du retour de Joseph Kabila en RDC en posant cette question, que comprendre au regard de la situation politique actuelle? On vous écoute.
Mais moi je pense que au regard des discussions aujourd'hui, des débats qui se déroulent en RDC, il faut poser les questions de fond. Dans ce débat, les uns les autres se positionnent en fonction de leurs intérêts politiques. C'est ce qui se comprend. Mais ce qui est sûr, c'est que le retour de Joseph Kabila est riche d'enseignements dans la mesure où il fait suite à une série d'événements. Le premier, c'était sa sortie médiatique. Le second, c'était sa rencontre avec un certain nombre de chefs d'État. Et tout cela se déroule dans un contexte particulier en RDC. Le pays est confronté à une guerre d'invasion pilotée à partir du Rwanda avec une complicité à bas bruit de l'Ouganda, et vous avez quand même sur le plan interne aussi une véritable crise politique, une forme de crise de légitimité à l'égard du régime en place. Et donc Kabila apparaît dans ce contexte-là comme étant une pièce, pas une pièce de rechange, mais comme quelqu'un qui pourrait jouer un rôle essentiel, non pas au regard de ce que penseraient les Congolais, mais d'abord les pays de la région. Et ça, c'est très important de le retenir parce que aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est isolé diplomatiquement au niveau régional et même, je dirais, continental. Et la plupart des chefs d'État de la SADC, même des États de l'Afrique de l'Est, sont restés quand même pas très proches de Kabila, mais je dirais qu'ils ont un profond respect pour lui. Et on voit d'ailleurs la manière dont il est reçu dans un certain nombre d'États, et le voir revenir dans ce contexte-là n'est pas anodin. Donc, ce qui est essentiel à retenir de mon point de vue, c'est qu'un certain nombre des pays de la région, y compris peut-être aussi à l'international, estiment que Kabila pourrait jouer un rôle dans le Congo de demain, ou même d'aujourd'hui, voire de demain, dans la mesure où Félix Tshisekedi n'inspire pas beaucoup confiance. Le fait qu'aujourd'hui, même les négociations se fassent à Doha et pas sous la conduite de l'Union africaine ou des pays africains, soulève beaucoup de questions sur le sérieux qu'on accorde aujourd'hui à la RDC dans un certain nombre d'États africains. Et pour moi, le retour de Kabila dans ce contexte-là ne peut qu'interroger, mais surtout devrait attirer l'attention des responsables politiques congolais qui, en lieu et place de se contenter de dire qu'il est le soutien de M23, devait se poser la question de savoir pourquoi Kabila, qui a été rejeté quand même à la fin de son mandat, est aujourd'hui plébiscité par certains, y compris en RDC même, où certains compatriotes, certains Congolais estiment que Félix Tshisekedi est pire que Kabila. Bon, il n'y a pas de statistiques pour le relever, mais le fait qu'il revienne aujourd'hui et qu'il reçoive quand même le soutien d'un certain nombre de Congolais, mais aussi des pays de la région, soulève des questions et devait interpeller les autorités politiques du pays, y compris les Congolais de manière générale. Parce que, comme vous le savez, la nature a horreur du vide et les gens, les populations ont l'habitude de comparer leur niveau de souffrance. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est au pouvoir. Si les gens estiment que sous le pouvoir de Félix Tshisekedi, il y a beaucoup plus de problèmes, ben, ils se souviendront de Kabila, non pas parce que Kabila serait indispensable à un bon président, mais parce qu'à son époque, leur niveau de souffrance était peut-être beaucoup moindre que ce qu'ils observent aujourd'hui. Et donc, avec le retour de Kabila, je pense, c'est toutes les cartes qui risquent d'être rabattues au niveau interne, mais aussi régional, vis-à-vis de ce à quoi le Congo est confronté aujourd'hui.
Voilà, vous parlez du rôle essentiel que Kabila pourrait jouer dans les contextes du moment. Et qu'est-ce que vous appelez rôle essentiel concrètement?
Mais rôle essentiel, c'est-à-dire que il peut jouer un rôle de président de substitution. Et là, je veux être un peu, je ne veux pas faire peur,
Ben, si vous regardez l'histoire de notre pays, vous allez constater que le président Mobutu, le président Laurent-Désiré Kabila, et même Joseph, non pas Joseph Kabila, mais Mobutu et Laurent-Désiré Kabila avaient quelque chose en commun. À la fin de leur régime, c'est qu'ils étaient diplomatiquement rejetés par les pays africains, pour la plupart. Et même au bout, on a vu des pays comme le Togo tourner le regard, le président Gnassing Bédéma tourner le regard à la fin du régime Mobutu. Et on voit au niveau de la RDC avec le président Tshisekedi qu'il y a une forme d'isolement diplomatique qui ne dit pas son nom. C'est cet isolement qui explique le retrait de l'EAC dans les conditions que nous savons, le retrait des forces de la SADC, l'impossibilité pour l'Angola de mener à bien les négociations entre la RDC et l'M23, et tout ça en fait, interpelle. Et donc, dans cette optique-là, voir Joseph Kabila rencontrer des chefs d'État, faire plusieurs sorties publiques dans les pays qui ont été ou qui sont impliqués en RDC, n'est pas anodin sur le plan diplomatique et même stratégique, je dirais. Dans cette optique, certains chefs d'État pourraient estimer que Joseph Kabila est peut-être quelqu'un qui pourrait jouer un rôle important, non pas nécessairement en devenant président, mais en pistonnant ou en propulsant des gens que lui pourrait baquer pour pouvoir assurer la direction de la RDC en absence ou d'un Félix Tshisekedi.
Merci Marc Gardidiana, journaliste et éditeur des médias lesfrancs-tireurs.net et Baptiste Afrique. Comment vous réagissez à cette analyse de Patrick Meko au sujet de l'annonce par Joseph Kabila de son retour prochain au pays?
Vous savez, quand vous parlez d'annonce, et quand j'ai suivi l'analyse de mon frère, je me suis posé beaucoup trop de questions. Joseph Kabila serait publicité par certains compatriotes, je me suis posé la question par quel mécanisme, parce que si c'était le cas, il serait revenu et compétir dans le règle tel qu'établi. Je ne sais pas comprendre. Quelqu'un aujourd'hui à la fin de son mandat, qui a après passation pacifique, a pris le surnom de père de l'alternance et de la démocratie, ses places en redresseur de tort pour venir chambouler cet ordre démocratique qu'il réétablit par lui-même. Admettons une chose, et qu'aujourd'hui il y a des questions de gouvernance. Ça c'est une vérité, quand vous voyez le contexte, il y a des difficultés. Mais est-ce que le retour de Joseph Kabila vient résoudre de problèmes dans le fond? Et puis on parle de quel retour? Le retour ici, c'est le retour au pays. Parce qu'il s'était exilé, par de voies que personne n'essaie de finir aujourd'hui, et qu'aujourd'hui décide de revenir, mais revenir dans une zone où il y a un jeu, parce qu'il a un rôle à jouer, pas pour la République, mais pour cette nouvelle dynamique politique qui s'établit avec Nanga et l'ASN. Écoutons, aujourd'hui, j'ai envie de me poser une deuxième question. Il n'y a que le politique congolais qui ont l'habitude de faire de cette question de la guerre de l'Est un fait politique qui peuvent profiter à chacun bon gré mal gré et au gré de leurs intérêts. Aujourd'hui, on parle de l'isolement diplomatique. Monsieur Guy, je ne sais pas de quoi on parle. Il y a une contradiction sérieuse entre la RDC et les pays de la sous-région parce que nous le connaissons tous que la sous-région est dans une dynamique parce que la plupart de ces États-là bénéficient des intérêts des ressources minières dans le contexte de guerre de la RDC. Si la contamination au niveau de la chaîne de production du Rwanda s'est définie en termes de 1 milliard de dollars chaque année, c'est le cas pour la plupart des États à côté. Je parlerai de l'Ouganda, je parle de la Tanzanie, je parlerai également de la Zambie. Ils ont constitué un pôle. Et aujourd'hui, puisqu'on est dans un rapport entre États, la situation de fragilité de la RDC leur profite. S'ils ont précipité de pouvoir amener la RDC à l'EAC, c'est pas pour les intérêts de la RDC. C'est pour ce que la RDC représente en tant que corridor commercial à ces niveaux-là. Mais surtout en tant que marché propice pour la plupart de ces États dans leur dynamique de production. On est dans un contexte d'agression. Quand on parle du rôle que Joseph Kabila jouait, c'est quel rôle? Le rôle de renverser Tshisekedi. Non, soyons cohérents à un moment donné. La vérité aujourd'hui est que, c'est vrai, le pouvoir a prêté le flanc. Quand on a une culture politique comme la nôtre, quand on a des politiques qui surfent sur des faits politiques au gré de leurs intérêts, l'idée de pouvoir engager une discussion sur le changement de la Constitution, alors qu'on est au dernier mandat, a été interprétée par plusieurs de cette manière-là. Et même nos autres observateurs indépendants, on peut émettre des doutes sur la nature de ce changement voulu. Mais je ne pense pas qu'on doit corriger une erreur par une autre erreur.
Merci.
Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on parle, je veux chuter par là. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on nous ramène la cause de la sous-région qui a toujours été là, sans pour autant voir résoudre le vrai problème, pendant que cette communauté internationale, qui est le soutien majeur, commence à changer son fusil d'épaule. Monsieur Guy, la vérité aujourd'hui, c'est que quand on parle de la question de la sous-région, les gens qui ont l'habitude de me suivre savent que je le dis tout le jour. La sous-région, les différentes discussions en interne et médiation, ne sont que des mécaniques ou de mécanismes mis en place qui obéissent à une politique venue de l'extérieur, particulièrement de cette fameuse communauté internationale. Si aujourd'hui il peut y avoir un dénouement, c'est parce que Doha est entré en danse. À première vue, les gens parleront de Doha parce qu'ils estiment que non, Doha a des intérêts en RDC et au Rwanda. Mais Doha, pour la plupart, pour les experts, ils savent que Doha est un allié stratégique majeur des États-Unis. Et cette discussion n'a pas commencé aujourd'hui. Si Kinshasa l'accepte de le prendre aujourd'hui, c'est parce que c'est après les discussions avec la nouvelle dynamique qu'ils veulent engager avec les États-Unis que parmi les préalables, c'était également de pouvoir trouver intérêt d'entente pour discuter afin de pouvoir mettre en place des mécanismes pour aller résoudre ce problème-là.
Merci.
Aujourd'hui, présenter Joseph Kabila comme une solution pour la résolution de la crise de l'Est, c'est oublier l'histoire.
Merci, Maître Nelly Mbangu Lumbulumbu, membre de la société civile du Nord Kivu. Vous êtes présidente de l'association Dynamique des femmes juristes et DFJ en sigle et coordonnatrice du réseau des organisations féminines Sauti Yamama Mukongomani. Quand on entend les déclarations que fait Kabila depuis un certain moment, quand on les voit s'émouvoir, j'avoue qu'on a du mal, n'est-ce pas, à comprendre son jeu. Et à votre avis, quelle est la carte que joue exactement Kabila?
Je voudrais dire ici que je suis très faible dans la lutte politique en tant que responsable d'une organisation de la société civile. Moi, plutôt, je m'en tiendrai à parler de questions de droits de l'homme, de protection des civils, de protection, n'est-ce pas, des biens de la population. Donc, je voudrais ici dire que ce que nous voulons, c'est la paix. Ça fait quand même longtemps. Aujourd'hui, je suis déplacée à Kinshasa, c'est pas le fait de cette guerre. J'ai tout laissé, vous vous imaginez, j'ai tout laissé à Goma pour venir vivre, n'est-ce pas, dans une vie, je ne sais pas comment je peux le décrire, mais dans une précarité ici à Kinshasa. Alors, ce que je voudrais vraiment dire, nous, ce que nous recherchons, c'est d'avoir une solution pacifique et régler cette question à l'amiable, que nous puissions vivre dans la paix. Ça a longtemps duré, la population continue à se faire tuer tous les jours, nous le savons, on ne sait pas, et il y a des informations qui circulent ici et là, mais nous voulons vraiment la paix. C'est la paix que nous recherchons, et apprendre, n'est-ce pas, que les politiques peuvent nous prendre en otage, c'est quelque chose en fait qui blesse et qui en fait et nous dénigre, c'est vivre dans l'indignité même. Donc ce que nous demandons, c'est de voir comment arriver à trouver une solution. Nous avions beaucoup apprécié le fait que le chef de l'État a tendu la main pour les consultations nationales, croyant que ça pouvait, n'est-ce pas, apporter une solution définitive au niveau interne. Je parle bien du niveau interne de cette crise, mais quand on voit déjà ce qui se passe, on se dit donc on est loin de trouver cette solution. Si déjà le chef de l'État tend la main et qu'on ne parvient pas, n'est-ce pas, à saisir cette opportunité-là pour trouver une solution à l'interne. Nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes à l'interne, c'est vrai. Nous avons beaucoup souffert et nous demandons que la paix revienne et plus rapidement possible pour permettre aux populations qui sont aujourd'hui vivent dans la terreur, qui vivent dans la crainte, puissent pas retrouver la paix et la tranquillité.
Merci. Merci, chers auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. On va écouter Mayanga, ce nouveau single de Fally Ipupa, et on revient juste après.
Ah, 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 femme africaine. Mama ya ba na yo deboli mwa papa. Atana liputa blisko na soukia maboko. Mon amour, kitoko, présence, charisme, la classe, élégance. Dis que toi ne dis pas baby.
Non.
Shout out to all Africa queens. Salami palé. Car tu le mérites mama. La lula yo na mon goto. Le même jour na pantalon. Kalela yo na barok na bajur. Jour o lata ki li puta bisko. Na pwe a ki mayana. Na pwe a ki mayana. Na pwe mayana. Na pwe mayana. Na pwe ki mayana. Na pwe mayana. Mutuashi. Kamali puta tobi.
Radio Capi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur la côté de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la côté de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre dans quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire au sujet du détournement présumé de 10 millions de dollars américains accordés par la société pétrolière Perenco. Nous avons également analysé l'annonce du président honoré Joseph Kabila de revenir en RDC par la partie orientale. Participe à cette émission, Mike Gardi Diana, il est journaliste et éditeur des médias Les francs-tireurs.net et Baptiste Afrique. Maître Nelly Mbangulumbulumbu, membre de la société civile du Nord Kivu, et les présidente de l'association dynamique des femmes juristes et des figures en sigle, et coordonnatrice du réseau des organisations féminines Saouti Amama Mkongomani. Et en ligne depuis la ville de Montréal au Canada, Patrick Mbeko, il est écrivain, il est auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique, et il est aussi spécialiste des Grands Lacs. Prévu mercredi 9 avril à Doha au Qatar, les débuts de discussions directes entre les gouvernements congolais et les rebelles de l'AFC M23 a été reporté à une date ultérieure. Selon l'agence de presse anglaise Reuters, les deux camps évoquent des raisons organisationnelles. Cependant, d'autres sources confirment que les deux délégations se trouvent bien à Doha. La délégation de l'AFC M23, conduite par le coordonnateur adjoint Bertrand Bissimoy, aurait posé plusieurs préalables et qu'elle présente comme des mesures de confiance pour entamer des négociations directes avec le gouvernement. De son côté, le gouvernement congolais exigerait un cessez-le-feu sans condition, notamment le retrait des rebelles des villes de Bukavu et Goma. Par ailleurs, les évêques de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, et les pasteurs de l'Église du Christ au Congo SCC sont en tournée aux États-Unis dans le cadre du projet Pacte social pour la paix et les biens vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Mercredi 2 avril, ils ont été reçus à New York par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ainsi que M. Jérôme Bonanfo, représentant permanent de la France auprès des Nations Unies. La veille, mardi 1er avril, ces leaders religieux avaient rencontré à Washington les responsables d'Afrique du département d'État américain. Jeudi, ils ont poursuivi leurs échanges à Washington avec les membres du Congrès américain travaillant sur les affaires extérieures, notamment celles liées à l'Afrique, a rapporté Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la CENCO. Et au pays, les consultations politiques initiées par le président de la République, Félix Tshisekedi, et menées par son conseiller spécial en matière de sécurité, Casimir Eberhan de Kolongele, se sont achevées mardi 8 avril. Lancées le 24 mars à Kinshasa, et ils avaient pour objectif de rassembler majorité, opposition, société civile et personnalités indépendantes afin de trouver des solutions à la grave crise sécuritaire qui menace l'unité et la stabilité du pays. Mike Gardi, Diana, vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler de l'efficacité des différentes médiations dans la résolution du conflit dans l'Est de la RDC. On vous écoute.
Merci. Je crois que aujourd'hui, il est vrai de souligner un bon nombre de médiations à gauche et à droite. Il faut compter le processus de Nairobi qui est presque en beurre, le processus de Luanda où la médiation a été presque abandonnée par João Lourenço. Parlons également de la médiation de SADC EAC avec le six anciens chefs d'État, mais également s'est ajouté sur cette donne la médiation de Doha. C'est vrai, on se pose la question sur l'efficacité maintenant parce que quand vous avez un conflit autour de quoi s'articulent plusieurs médiations, c'est une question très difficile à résoudre dans la mesure où il faut dire la vérité, Kinshasa a besoin de solutions, mais la donne au niveau de la sous-région ne nous a pas apporté jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a eu un débat de sourds dans la mesure où le M23 fort de leur situation sur terrain, et le gouvernement de Kinshasa, fort des approches diplomatiques, ont décidé chacun de camper à leur position et faire ce que moi j'appelle un débat de sourds. Maintenant, la grande question, c'est comment faire pour pouvoir trouver une solution. S'il y a eu blocage au niveau de autres médiations au niveau de la sous-région, pour moi, Doha est justement la clé qui vient remettre les deux acteurs autour d'une discussion. Pourquoi je le dis? Parce que si le mouvement rebelle sur le terrain continue à garder leur position et leur point fort, Kinshasa, qui depuis toujours n'était vraiment pas dans l'approche militaire et restait sur les approches diplomatiques, a beaucoup fait une diplomatie très active aujourd'hui, notamment le dernier deal qui se raconte à gauche à droite de trouver un partenariat avec les États-Unis. Et c'est fort justement de cette position que les États-Unis, intervenant de loin, ont certainement fait entrer en danse l'un des partenaires stratégiques et majeurs, notamment Doha, qui, depuis un moment, il faut le signaler, voulait déjà mettre les deux États autour d'une table parce que Doha est certainement l'un des États les plus touchés aussi, notamment avec l'interdiction de vol rwandais sur l'espace aérien congolais. Parce que le gros du flux aérien du Rwanda est fait par les sociétés du Qatar. Donc pour moi, aujourd'hui, l'efficacité de ces médiations sont moyens dans la mesure où la plupart des médiateurs viennent dans l'idée de pouvoir jouer ce que moi j'appelle ici de jouer de l'évangélisation. Et pour moi, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, seul Doha est une orientation qui fait en sorte que les deux parties se trouvent autour d'une table. Mais je reconnais quand même une vérité, c'est que pour trouver un terrain d'entente, il faudra revenir au niveau de la sous-région pour signature d'accord et tout ce qui va avec, parce que nullement cette réalité sera prise en compte au niveau international. Mais cependant, aujourd'hui, il y a eu une preuve qui peut nous mettre un peu plus à l'aise dans la mesure où de dire il existe des influences qui peuvent faire fléchir cette rébellion, mais qui ne l'ont pas fait depuis toutes ces années. Est-ce que la faute était au niveau de Kinshasa dans ses approches diplomatiques, ou aujourd'hui la question est tellement mise en avant au niveau international et que ces derniers ne pouvant plus se cacher, décident de pouvoir lâcher la plupart de leurs valets qui sont les intérêts de ces puissants-là. Et donc pour moi, j'ajoute un élément avant de finir, c'est que Kinshasa peut se dire que les choses évoluent pour le mieux dans la mesure où les discussions autour de la table sont arrivées. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que Kinshasa arrive avec autant d'exigences pour un État qui est sous occupation, avec des approches militaires très faibles. Mais pour moi, il est difficile de pouvoir faire fléchir l'opposition du M23 sans qu'il y ait une vraie dynamique militaire en interne, sans qu'il puisse activer l'option militaire sur terrain pour justement gagner du terrain, parce qu'en diplomatie, il n'existe pas des négociations sans rapport de force, et sur terrain, on est extrêmement faible. Et pour moi, c'est ce que je trouve paradoxal, de ne compter que sur l'approche diplomatique pour résoudre ces conflits. Pour moi, ce n'est pas cohérent.
Merci. Merci, Matinali Mbangulumbulumbu. Si toutes ces initiatives poursuivent un même objectif, celui de régler pacifiquement la crise dans l'est de la RDC, sont-elles capables de déboucher forcément sur la fin de la crise entre le Rwanda et la RDC?
Bon, il faut dire que c'est ça notre souhait. Qu'on voudrait voir la paix revenir, donc on pense que toutes les voies sont possibles pour qu'on parvienne à la paix. Si la paix peut venir de Doha, ou je ne sais pas, de Luanda, ou encore de Nairobi, mais pourvu qu'on parvienne à avoir cette paix-là, qui a été longtemps recherchée, je crois que ce sera une bonne chose. Comme je vous l'ai dit encore, je sais que je ne suis pas très douée dans l'analyse, n'est-ce pas, des questions politiques, mais je me dis qu'en tant qu'acteur de paix, la paix, c'est en fait cette denrée-là qui a été toujours recherchée et qui a fait que son absence, n'est-ce pas, puisse occasionner plusieurs morts, plusieurs victimes de violences sexuelles. Donc nous voulons avoir la paix, nous cherchons vraiment cette paix-là et nous sommes en train de penser que c'est l'occasion, n'est-ce pas, peut-être de l'avoir de manière durable. De manière durable, pourquoi? Parce que si seulement on parvenait à trouver une solution et que, à la fin, qu'on revienne encore sur l'état initial ou alors sur le même conflit, cela risque, n'est-ce pas, de remettre surtout la population de l'Est de la RDC dans une situation de grande vulnérabilité. Donc, notre souci, c'est de voir la paix revenir. Donc, je suis actrice de paix. J'aimerais bien que la paix soit dans la région de Grand Lac pour donner, n'est-ce pas, la possibilité à tout un chacun, à tous les pays membres de la région de Grand Lac de se développer. Parce que la paix concerne tout le monde, que nous puissions d'abord avoir un discours de la paix. Donc ça veut dire cultiver la paix au sein, n'est-ce pas, de notre pays, cultiver la paix au sein de nos ménages pour que cette paix-là, que nous puissions la vivre maintenant de manière concrète et que la paix, n'est-ce pas, puisse aussi s'étaler dans tous les pays de la région.
Merci, madame.
Je sais que nous pouvons, n'est-ce pas, arriver à construire la paix si tellement nous le voulons. Merci.
Patrick Mbeko, je vous repose la même question. Plusieurs initiatives qui proviennent, n'est-ce pas, des différents bords, et des fois des bords qui sont diamétralement opposés, et avec un même objectif, celui de rétablir la paix dans l'Est de la RDC. Est-ce que toutes ces initiatives ont la possibilité de déboucher forcément sur la fin de la crise entre le Rwanda et la RDC? Patrick Mbeko.
Déjà, la première question qu'il faut poser, quelles sont les causes de cette crise aujourd'hui? C'est une question qu'on pose très peu, et quand on la pose, on répond de manière parfois très simpliste en nous disant qu'il y a la communauté internationale, c'est le Rwanda, c'est les minerais. Alors qu'en réalité, le Congo porte en partie une responsabilité dans tout ça. Maintenant, il y a des décisions qui ont été prises.
Et c'est quoi la part de la RDC?
Mais parce qu'en réalité, cette crise a éclaté en raison des différends qui ont opposé le président Tshisekedi au président Kagame à cause de l'implication de l'Ouganda. Il ne faut pas oublier que lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, le Rwanda est un pays totalement isolé sur le plan régional. Et c'est la raison pour laquelle le Rwanda s'est beaucoup rapproché de la RDC. Et quand Félix Tshisekedi a joué le jeu, ça a fait l'affaire de Kagame qui avait comme adversaire dans la région Museveni et le président d'Aïchibi et Burundi. Et donc, c'est la raison pour laquelle en 2021,
le patron des services secrets burundais n'est pas venu en RDC, et la raison pour laquelle aussi l'Ouganda et le Burundi ont court-circuité toutes les initiatives devant permettre de mettre en place une force régionale pour mettre fin aux groupes armés qui pullulent dans la région et tout particulièrement à l'est de la RDC. Lorsque le Congo a décidé d'inviter l'Ouganda d'intervenir dans le cadre de l'opération Ouija en décembre 2021, les Rwandais ont vu rouge parce qu'ils estiment que l'Ouganda allait investir une partie de l'Est congolais qu'ils considèrent comme leur zone d'influence. Et c'est la raison pour laquelle ils ont réactivé le M23 qui était en discussion avec le gouvernement congolais quelques mois auparavant. Et donc, ce sont des questions qui sont beaucoup plus complexes, qu'il ne faut pas traiter de manière simpliste. Et je dois rappeler une chose importante, c'est que dans tous les rapports des Nations Unies depuis 2001, il faut savoir que le pillage du Congo se fait avec la complicité des Congolais. C'est ce que les groupes d'experts ont appelé les réseaux d'élite. Dans les réseaux d'élite, vous trouvez des Congolais, des Rwandais, les Ougandais. À un moment, il y avait les Zimbabwe et les autres. Donc, ce n'est pas une crise simpliste. Et il est vrai que le président Tshisekedi est tombé dans le piège du président Kagame, qui a toujours eu des velléités à l'égard de la RDC. Des gens à la présidence m'ont dit, oui, le président était de bonne foi. C'est vrai, mais il n'avait pas peut-être saisi les subtilités géopolitiques de la région et se fait prendre par le président Kagame, qui lui, même s'il a des soucis avec le président Museveni, arrive à s'entendre avec celui-ci quand il est question de la RDC. C'est la raison pour laquelle les gens du M23 ont reçu l'aide de l'Ouganda pour prendre Bunagana. Et nous sommes aujourd'hui l'allié de l'Ouganda et nous n'avons pas le choix parce que nous ne voulons pas ouvrir un second front avec l'Ouganda alors que nous sommes déjà confrontés au Rwanda qui nous mène la vie dure depuis un moment. Voyez-vous ? Maintenant, si on revient à l'histoire de Doha, le problème qui se pose ici, c'est celui-ci. C'est que, moi, il y a une chose que j'ai compris, c'est que le 1-23 n'a pas intérêt à négocier et il ne veut pas négocier. Le 1-23 applique ce qu'on appelle le talk and fight. C'est une stratégie que Museveni avait utilisée pendant la guerre civile en Ouganda avec Kagame qui était dans son armée, il faut le rappeler, dans les années 80. Et puis Kagame l'a utilisée contre le président Juvénal Habyarimana dans les années 90 pendant les discussions à Arusha pour signer les accords de paix d'Arusha dans les années en 93. Et c'est ce que Laurent Désiré Kabila, soutenu par le Rwanda, a appliqué à l'égard de Mobutu à Otenika, et c'est ce que fait aujourd'hui le M23 avec le soutien du Rwanda. Tout ce qu'ils font, ils cherchent des prétextes pour ne pas négocier. Et si moi j'étais le gouvernement congolais, j'aurais mis de côté certains préalables, ouvrir les discussions, au moins pour montrer à la communauté internationale que le Rwanda joue faux jeu, avec son M23 joue un faux jeu, ne tiennent pas à ce que la paix revienne, parce que dans la mesure où ils occupent des terres, ils exploitent des ressources naturelles, et il ne faut pas oublier, le M23 contrôle des terres qui sont beaucoup plus vastes que le Rwanda, dans son entièreté. Ils n'ont pas envie de négocier. Tout ce qu'ils veulent, c'est de gagner du temps, de créer les conditions favorables qui vont placer le Congo dans une situation intenable à un moment donné des discussions. Et de mon point de vue, je pense que les choses pourront évoluer si le Congo adopte une approche diplomatique sérieuse et lisible. Je dis sérieuse et lisible, pourquoi ? Parce que nous n'avons pas une bonne réputation sur le plan régional et international. On parle aujourd'hui du deal avec les Américains pour ramener la paix. Mais allez lire Jeune Afrique, vous allez voir que les Américains, l'envoi spécial américain dans la région, dissocient le deal entre les entreprises américaines et la RDC du deal sur la sécurité que demande la RDC pour se prémunir contre les menées rwandaises. Donc tant que le Congo, sur le plan militaire, ne va pas arriver à renverser le rapport de force sur le terrain militaire, il sera difficile d'imposer ses vues. Merci. Ce que doit faire la RDC, c'est de naviguer, de jouer la ruse comme les adversaires, de sorte à placer le Rwanda dans une position intenable. Pourquoi ? Parce que depuis un moment, le Rwanda est de plus en plus lâché par ses parrains. Et ça, ce n'est pas à cause de la RDC, comme le disent certains Congolais. Ça a commencé beaucoup plus tôt, ça a commencé depuis l'époque Obama. Mais comme il y avait Joseph Kabila au pouvoir qui faisait le jeu du Rwanda, on ne l'a pas vu. Mais depuis l'arrivée de Biden, les Américains se sont montrés hostiles à l'égard du Rwanda. Et je parle du département d'État. Si les États-Unis ont une position ambiguë vis-à-vis du Rwanda, c'est parce que le département de la défense continue d'entretenir des liens avec l'armée rwandaise sur notre théâtre d'opération. Ce qui gêne le travail du département d'État. Il appartient à la RDC d'articuler une diplomatie lisible, sérieuse et rigoureuse pour pouvoir renverser le rapport de force sur le plan régional et international de sorte à tirer son épingle de jeu. Quant aux rencontres qui se tiennent à Doha, il sera difficile d'aboutir s'il n'y a pas de pression extérieure. Et le Rwanda joue la montre, le Rwanda, c'est domestique dans le 23, joue la montre, et la RDC
devrait quitter le terrain de la diplomatie du spectacle pour s'engager sur un terrain où il y aura une diplomatie véritablement sérieuse.
Merci.
Il ne faut pas simplement, je vais juste finir là, on n'articule pas sa diplomatie pour faire plaisir à sa base, à des gens en RDC qui s'excitent à la cause du Rwanda. Ce sont des affaires d'État. À ce niveau de l'État, il faut prendre ses responsabilités. Les Américains l'ont fait pendant la guerre du Vietnam, en entamant des négociations avec les Chinois. Je pense que la RDC devrait aussi accepter de négocier, mais pour court-circuiter le Rwanda de sorte à isoler l'inventaire dans cette histoire.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Aimer la vie de Julio Iglesias. On se retrouve juste après.
Dieu ne manque pas de charme, mais je préfère le plaisir, les joies, les larmes de notre terre. Les vents belles, les yeux brillants des jolies femmes. La vie c'est plus pétillant que les champagnes. La haute droit coquée, la paume, mais c'est les diables. Mais la vie est blanche et les hommes, c'est formidable. Et j'ai dans l'éternité son silence pour un pauvre jour d'été de mes vacances. C'est permis d'aimer la vie et d'aimer l'amour, d'aimer la nuit, d'aimer les jours, et de penser que c'est trop court, bien trop court. J'ai envie de rattraper le temps qui court, de vivre à fond, de vivre pour, aimer la vie, aimer l'amour. La vie c'est l'éternel miracle, la seule chance, chaque jour les grands spectacles qui recommencent. J'applaudis, je dis chapeau au grand artiste qui dessine les tableaux qui existent. Les bombes, les yeux brillants de jolies femmes. La vie c'est plus pétillant que les champagnes. C'est permis d'aimer la vie et d'aimer l'amour, d'aimer la nuit, d'aimer les jours, et de penser que c'est trop court, bien trop court. J'ai envie.
C'était Aimer la vie avec Julio Iglesias, ce célèbre artiste, musicien et chanteur des charmes espagnols. Julio Iglesias a totalisé 81 ans d'âge le 23 septembre dernier. Je rappelle que nous avons dans cette émission Mike Gardi Diana, il est journaliste et éditeur des médias lefranc-tireur.net et Baptiste Afrique. Maître Nelly Mbangulumbulumbu, membre de la société civile du Nord Kivu et les présidente de l'association dynamique des femmes juristes DFJ en sigle et coordonnatrice du réseau des organisations féminines Sauti Amama Mukongomani. Et en ligne depuis la ville de Montréal au Canada, Patrick Mbeko, il est écrivain, il est auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique, il est aussi spécialiste des Grands Lacs. L'Institut national de santé publique a publié un rapport d'alerte sur les dégâts causés par les inondations du 4 au 5 avril dernier à Kinshasa. Dans ce rapport, cette institution plaide pour une mobilisation des fonds pour les secours d'urgence en faveur des sinistrés et la réhabilitation de plusieurs infrastructures détruites par les inondations. Ces rapports indiquent que les inondations ont détruit 42 écoles, 73 établissements de santé et endommagé plus de 3000 maisons. 10 zones de santé sont sévèrement touchées, notamment Misa Ozone, Kingabwa, Kinsenso, Matete, Maluku 1, Massina 1, Mongafula 1 et 2, Limete et Njili. Le rapport précise que plus de 30 000 ménages sont sinistrés, dont plus de 4 000 personnes hébergées dans les sites Iti, Lubumbashi, Tata Raphaël et Stade des Martyrs. La coordination nationale de l'Institut national de santé publique a enregistré 13 décès, 163 blessés qui ont été évacués et 6 disparus. Le rapport attire l'attention sur le risque élevé des maladies hydriques comme choléra, typhoïde qui pourraient affecter la santé publique à Kinshasa. Maître Kennedy Mbangoulumbulumbu, vous avez souhaité nous parler de la situation des ménages inondés par les pluies diluviennes du samedi et dimanche dernier, en vous demandant quelles actions faut-il prendre pour assister ces ménages et que faut-il faire pour prévenir ce genre de catastrophe. On vous écoute.
J'ai choisi ce thème parce que tout d'abord il est d'actualité. Vous savez très bien que le samedi passé, donc la nuit du samedi et la journée du dimanche, c'était vraiment des journées très sombres pour la plupart de la population vivant à l'est, n'est-ce pas, de la ville de Kinshasa. Nous avons vécu plusieurs ménages qui ont été inondés et ce qui a occasionné aussi des morts, comme on le sait. Mais tout cela devrait en fait interpeller les autorités au niveau de notre pays. Pourquoi j'ai choisi ce thème, je le dis encore, c'est parce qu'il est d'actualité, mais pour la simple raison que, en vivant à Kinshasa, on a comme l'impression que la protection de l'environnement ou alors les questions environnementales, ce sont des questions qui sont remises, n'est-ce pas, à l'arrière-plan. Nous avons comme l'impression également que la population de la ville n'est pas suffisamment informée par rapport à quelle attitude prendre, surtout sur les questions d'hygiène, les questions, n'est-ce pas, de protection de l'environnement, je l'ai dit. Nous avons également l'impression que lorsque nous sommes dans la période pluvieuse, c'est là que nous voyons plusieurs personnes vivant dans les quartiers, des populations se mobiliser pour commencer, n'est-ce pas, à faire des travaux sur les caniveaux, dans le riz de la ville, pour en fait empêcher que les pluies diluviennes, lorsqu'elles viendront, ne puissent, n'est-ce pas, amener les inondations dans la ville. Mais cela devrait, n'est-ce pas, interpeller. Ça doit interpeller non seulement les populations, mais également les autorités. Pourquoi je parle des autorités? Je parle des autorités parce que la ville doit normalement avoir un plan d'assainissement. Un plan national d'assainissement, je ne sais pas si ça existe, mais j'ai remarqué que si ce plan-là existait, normalement, le chef de quartier, je suis dans un quartier où je n'ai jamais vu mon chef de quartier, je ne le connais même pas. Alors que dans d'autres provinces, on a des chefs de quartier qui sont plus ou moins conscients et qui connaissent le rôle qu'ils doivent jouer en tant que chef de cadre de base, n'est-ce pas, de notre différentes entités. Donc ce qui se passe à Kinshasa, c'est que on a comme l'impression que les choses se passent, donc les gens vivent dans une sorte de jungle, surtout sur les questions d'hygiène. Où on peut jeter, je ne sais pas, des bouteilles d'eau partout, je ne sais pas, on peut jeter des déchets de ménage dans les caniveaux, et sans que cela ne puisse être considéré comme un vrai problème, n'est-ce pas, environnemental. Là même, donc, je me dis, avec la pluie qu'il y a, nous risquons encore d'apprendre qu'il y a des maisons qui ont été inondées. Donc, je ne suis pas vraiment du domaine technique, mais je voulais parler en tant que habitante de la ville de Goma, plutôt de Kinshasa.
Merci.
Et je suis en train de vivre cet état de choses. Et je crois que nous devons chercher une solution durable.
Merci, nous devons chercher une solution durable. Et Patrick Kimbeko, vous avez suivi ces tableaux sombres et peints à travers ces rapports de l'Institut national de santé publique. Et pour vous, quelle attitude devrait adopter le gouvernement pour faire face, n'est-ce pas, efficacement aux conséquences néfastes de ces inondations?
En fait, je pense que dans tout problème de ce type, il faut toujours s'attaquer aux causes profondes de ces genres de situations dramatiques. Nous savons aujourd'hui qu'au Congo, il y a un problème d'infrastructure, il y a une insuffisance des infrastructures de drainage et d'évacuation des eaux pluviales, par exemple, surtout dans la ville de Kinshasa. Il faut élaborer un vrai plan d'aménagement du territoire adapté, aussi un plan complet d'évacuation des déchets. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est un problème structurel qu'il faut régler, parce que si on ne le règle pas, on perdra du temps à vouloir colmater. En fait, on s'attarde beaucoup sur les conséquences au lieu de s'interroger sur les causes. Et de mon point de vue, il faut d'abord régler les questions de fond qui sont d'ordre structurel et qui sont liées à l'insuffisance des infrastructures de drainage, comme j'ai dit, et de la question de l'aménagement du territoire. Regardez les endroits où les gens ont, par exemple, construit. On se pose la question de savoir comment on peut construire dans ce type d'endroit. Donc il faut repenser le plan d'aménagement de la ville et puis mener une véritable politique de relocalisation des populations et en construire sur des lits de rivière, par exemple. Vous voyez, une fois qu'on a fait ça, on va déjà d'une certaine manière atténuer le problème en cas de pluie ou d'une météo problématique et par la suite, parce que ce genre de problème arrive aussi ici en Occident. Mais la différence entre l'Occident et nos pays, surtout le Congo et plus particulièrement Kinshasa, c'est qu'ici il y a une prise en charge qui est beaucoup plus facile, mais avant ça, on arrive déjà à atténuer les dégâts en mettant en place des infrastructures, une politique municipale qui soit adéquate et qui permette de limiter les dégâts à ce niveau.
Merci, Mac Gardi. Diana, nous allons finir cette émission avec vous. Peut-on espérer que les dirigeants politiques de ces pays ont tiré ou vont tirer les leçons de ces phénomènes des inondations récurrentes?
Bon, la question est beaucoup plus complexe que ça. Dans la mesure où, quand vous êtes une capitale comme Kinshasa, située à la rive gauche du fleuve Congo, avec une vingtaine de rivières qui la traversent pour l'évacuation de ses eaux, il faut être munitieux dans le plan d'aménagement. Et il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte, notamment les errements des agents de l'urbanisme et habitat, qui, particulièrement la subdivision qui octroie des titres de concession unilatéralement. Mais cela s'ajoute également à la question de la gestion depuis toujours de la ville. Le caniveau qui sont presque pas au point et on ne sait pas évacuer convenablement, on construit n'importe comment. Et pour moi aujourd'hui, c'est vrai que c'est une catastrophe naturelle, mais qui révèle également l'état de la ville. Quand on est dans une ville autrefois pensée, 5000 personnes, aujourd'hui on est à 12 millions d'habitants, on avoisine le 15 millions. Kinshasa est une ville qui doit être repensée, ça c'est une vérité de fait. Donc il faut reconstruire cette ville de Kinshasa qui n'est pas, au regard de l'évolution démographique et de sa situation actuelle, je pense que Kinshasa mérite d'être reconstruit. Mais aujourd'hui, je crois que la responsabilité se dégage dans la mesure où il faut qu'à ce niveau ici, on arrive à respecter le norme en termes d'urbanisation de la ville. Et ça, c'est un travail que devrait faire l'aménagement du territoire. Un ministère aussi important, mais qui, pour aujourd'hui, on se pose des questions, qu'est-ce qu'il fait exactement à ce niveau-là? Et parce qu'il n'y a aucun plan d'aménagement, ça fait 2 ans qu'on nous promet un plan qui n'arrive jamais. On se poserait la question de savoir pourquoi ce plan doit durer, parce qu'il existe dans ces pays un plan national stratégique de développement qui reprend l'ensemble des éléments essentiels pour pouvoir repenser les politiques publiques. Tout ça, c'est des problématiques qui entrent en compte. Mais pour l'instant, je pense que même la gestion de sinistrés se fait de manière aléatoire. Je pense qu'il faut recenser les victimes de ces inondations avec les services techniques, voir la mesure du possible et quelles sont les prévisions en ces niveaux-là, voir s'il y a ceux qui sont dans l'anarchie, voir comment compenser et leur trouver des zones d'habitation un peu plus plausibles. Et pour le reste, qui sont victimes justement de ce problème de nappe qui a débordé, voir comment, dans la journée possible, le mettre à l'abri. Mais pour l'instant, je crois que c'est révélateur de l'état de la ville. Cette ville est beaucoup trop enclavée, trop coincée. Cette ville est habitée à moins de 20%. Pour repenser la ville de Kinshasa, il n'y a pas d'autre solution.
Merci. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Nelly Mbangulumbulumbu, Monsieur Patrick Mbeko et Monsieur Mike Gardi Diana. Merci aussi à Hippolyte Kapanga qui était à la technique avec la participation de Christian Lomo, Mehdi Djedadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sevujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Mauvais Souvenir Buana, cette composition de Carlito Lassa, contenue dans l'album Zikondo, sorti en 1986 dans l'orchestre Shockstar. Et on se retrouve le samedi prochain.
Nazalaki komitisa na lokoso ya miso, nazalaki na motema ya bomo na mama, nazelaka mobali anga oyo nazwaka, aponzelanga motema na babisuto emosolo. Nazaraki
Et cause de la émotion, je suis allé qui m'a passé à vie. benga tama sene ki mamona ndenge na koni osola tiozo komoto e fozala emotion si kwezele ki mapasi moli benga tama mokilo mamona ndenge na koma osola tiozo komoto e fozala kwenchida. Pepe la